Alors voilà, je vous retrouve. Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle émission de Studio F. Aujourd'hui, nous avons en fait une interview avec Corinne Bussy-Copin, qui est océanographe et conseillère scientifique. C'est une interview qui a été enregistrée il y a quelques jours. C'est pour ça que nous étions en régie, justement, pour nous assurer que tout fonctionne bien. Et justement, Corinne a accepté de répondre à nos questions il y a quelques jours. Comme vous savez, il est très important de savoir l'état des océans, les progrès et les enjeux autour de cette thématique. Donc, une immersion complète dans cet univers finalement familier ou pas, mais très important, je pense. Et rappelons peut-être aussi que la troisième conférence de l'ONU sur les océans aura lieu cette année en juin à Nice 2025, a été justement décrétée par la France année de la mer. Voilà, je vais vous laisser avec cette immersion, avec cette interview qui va démarrer dans quelques instants et je vous retrouve dans une petite demi-heure pour la suite de la programmation. À tout à l'heure et immersion complète dans ces océans. Merci beaucoup, à tout à l'heure.
Bonjour à tous, Studio F, en votre compagnie Susanna Ikebana, et j'ai le plaisir d'avoir comme invitée, et c'est ma première interview avec une dame, c'est Corinne Bussy-Copin, scientifique et océanographe, qui nous accorde cette interview cet après-midi. Bonjour Corinne.
Bonjour Susanna, bonjour à tous.
Voilà, donc merci de nous rejoindre sur Studio F et justement je vais vous présenter brièvement en fait Corinne puisqu'elle a un parcours assez remarquable et je vais m'attarder peut-être en vous disant qu'elle a été conseillère scientifique et chargée de mission auprès de l'Institut océanographique de la Fondation Albert Ier, Prince de Monaco, donc toute une référence, et que depuis de nombreuses années, elle participe au dynamisme des actions océans, notamment dans le domaine scientifique, économique, médiatique et culturel. Et dernièrement, elle a décidé d'être auto-entrepreneur en créant sa structure Océan & Co. en 2023. Ce statut lui permet justement aujourd'hui d'offrir des prestations sur les sujets et thématiques en lien avec l'océan. Voilà Corinne.
Merci Susanna pour ce portrait. Je dois rajouter peut-être que je suis aussi en partie, je travaille au ministère aussi de la transition écologique au niveau de la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture en animant un collectif informel qui s'appelle Génération Mer dont je pourrais vous parler un petit peu plus tard au fil des questions.
Alors, très volontiers, parce que c'est vrai que tu as un CV qui est très long et je me suis aussi attardée, j'ai aussi vu que tu étais aussi expert dans le comité de la plateforme Océan et Climat, donc on pourra aborder toutes ces choses-là. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, puisque les personnes qui vont nous écouter, dont tous nos auditeurs, sont évidemment très conscients de la situation actuelle, et c'est un bonheur pour moi d'avoir une scientifique avec moi, je voulais savoir quand même quel est le moment déclencheur dans ta carrière ou dans ta vie qui t'a poussé à agir pour la préservation des océans.
Alors, honnêtement, déjà l'océan, c'était pas forcément une vocation toute petite. Hein, c'était plutôt l'envie, comme beaucoup de gens qui aiment la mer, un souvenir de vacances, des moments assez, comment on va dire, de liberté, d'écouter la mer qui va, qui vient. Tout ça était des choses que je trouvais assez apaisantes. Mais globalement, à la base, j'ai jamais voulu vraiment en faire un métier. Le hasard a voulu que je découvre cet univers après le bac et que de fil en aiguille, finalement, je suis arrivée effectivement à aujourd'hui proposer des réflexions autour de la bonne santé de l'océan. Mais c'est après tout un parcours professionnel de médiation scientifique, de travail avec des chercheurs, de production, de coordination, de programmes thématiques, d'ouvrages et d'expositions. La capacité, enfin, l'envie de protéger n'est vraiment arrivée ces dernières années, en fait. Ouais. Essentiellement, je pense au moment de la COP21 à Paris.
D'accord, très bien. Donc, c'est à ce moment-là que tu as été sensibilisée, on va dire, par tout cela. Et justement, ceci m'amène à te poser la question suivante, puisque nous sommes probablement aujourd'hui, quels sont les grands défis auxquels font face les océans, puisqu'on en parle beaucoup, mais réellement, quels sont-ils?
Alors, l'océan, en fait, faut comprendre que c'est un. Il nous rend de nombreux services, qu'on habite à ses côtés ou pas forcément, et que si c'était un pays, il aurait la. Si on calculait le produit intérieur brut de l'océan, il serait sur les rangs des cinquième ou sixième pays au niveau mondial pour les services qu'il nous rend et qui ne sont pas forcément monnayables, enfin qu'on ne constate pas aujourd'hui financièrement son intérêt. Et en fait, l'océan a joué un rôle tampon depuis de nombreuses années dans le cadre de nos émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire qu'il en a absorbé beaucoup avant de s'en rendre compte qu'il n'allait pas très bien à cause de ça. Et finalement, s'il n'avait pas absorbé tous ces gaz à effet de serre, on parle aujourd'hui de 30% depuis l'ère industrielle, en fait, on serait déjà un petit peu mal en point, on va dire, en tant que population humaine. Et le fait qu'il ait absorbé ces gaz a retardé en fait la manière dont on puisse se rendre compte que le climat allait changer.
Oui, c'est vrai parce qu'il a, ça a retardé tout ce processus et justement, aujourd'hui, l'état des océans, est-ce qu'on pense qu'il s'améliore ou qu'on est en train d'atteindre un point critique justement par rapport à cet effet de serre? Est-ce que tu viens de nous expliquer à quel moment sommes-nous de ce rendez-vous avec l'océan?
En fait, c'est un point critique puisque tous les océanographes le disent. Enfin, les paramètres physico-chimiques de l'océan ont changé puisqu'il a absorbé nos gaz à effet de serre, il a absorbé de la chaleur qui est induite par nos gaz à effet de serre. Et effectivement, il a joué ce rôle tampon. Et aujourd'hui, c'est lui qui souffre et qui ne va pas bien. Et donc, il faut faire. L'océan a une grande inertie et quand c'est pour ça qu'on met du temps à se rendre compte que le changement de ses caractéristiques, mais après, une fois qu'il va être aussi lancé dans une autre dynamique, ça sera un petit peu plus compliqué de l'arrêter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on faisait le nécessaire pour qu'il n'y ait plus de gaz à effet de serre qui pénètre dans l'océan, il faudrait des centaines d'années avant qu'on retrouve un équilibre que l'on connaît aujourd'hui.
Oui, alors ça chiffre alors en années. Et justement, il y a beaucoup de programmes à travers le monde, il y a beaucoup d'initiatives. Et justement, j'ai remarqué que prochainement, au mois de juin, à Nice, il y aura justement la troisième conférence mondiale de l'ONU sur la défense des océans. Et j'aimerais savoir, toi, en tant qu'individu, mais aussi à travers ta société, quelles sont finalement tes actions, tes interventions? Est-ce que tu te positionnes par rapport à ça? Quels sont tes engagements peut-être avec ce rendez-vous?
Alors oui, cette conférence internationale des Nations Unies pour l'océan est la troisième du nom. Et en fait, c'est le moment de faire un état des lieux justement de l'objectif de développement durable numéro 14, qui est celui de la vie aquatique. Donc je ne sais pas si les auditeurs connaissent bien les objectifs de développement durable. Ils ont été définis en 2015 par l'ONU avec des cibles de bon état écologique à atteindre, de bonne santé des hommes à atteindre, de limitation de la pauvreté, de la famine. En fait, c'est 17 objectifs de développement durable qu'il faudrait atteindre pour que la planète puisse répondre aux enjeux qu'elle a actuellement. Et donc, cette conférence des Nations Unies est co-organisée avec le Costa Rica. Et c'est parce qu'aujourd'hui, on va l'accueillir en France qu'on a décrété aussi en France une année de la mer. 2025, c'est l'année de la mer en France et dans les outre-mer français. Et à partir de là, pendant toute l'année, on va sensibiliser, on sensibilise déjà les citoyens aux enjeux de l'océan avec justement tout ce que je viens déjà de vous dire, qu'on a besoin d'un océan en bonne santé, qu'il ne va pas bien, mais qu'on peut faire des choses pour que cela s'améliore. Et dans le cadre de cette sensibilisation, avec justement le collectif Génération Mer, on est très très impliqués dans l'année de la mer. Donc on sera à l'UNOC, l'UNOC c'est le petit nom pour la conférence des Nations Unies sur l'océan, et on y sera avec un village qui est porté par l'année de la mer, un village itinérant qui va se poser et qui invitera de nombreuses associations à venir faire des animations, des conférences et des actions pour sensibiliser les citoyens aux enjeux de l'océan.
C'est très intéressant. Donc, on mettra dans le podcast peut-être les dates pour rappeler justement à notre public quand aura lieu cette troisième conférence, justement en juin. Donc, en fait, il y a plein d'initiatives, il y a beaucoup de pédagogie et j'entends bien qu'en fait, on sensibilise beaucoup aussi la jeune génération, j'imagine, pour justement pouvoir poursuivre nos pas. Donc,
Oui, ça sera un grand rendez-vous international et il y aura tous les pays qui seront présents, de nombreuses organisations via de nombreux secteurs d'activité ou de nombreuses tranches citoyennes, comme les jeunes, comme les scolaires, comme les ONG. Enfin, ça sera très, très varié et un grand rendez-vous citoyen en fait.
En tout cas, ça nous donne envie d'aller à ce rendez-vous et justement, on sensibilise déjà les gens donc de voir, en fait, d'écouter peut-être aussi tout ce qui va se passer autour de cette conférence. Et en revenant maintenant justement de nouveau un petit peu aux océans et à des questions un petit peu beaucoup plus ciblées, immersion complète dans les océans dont on disait en début d'émission, j'aimerais savoir quels sont les écosystèmes marins actuellement les plus menacés et pourquoi, puisqu'on s'adresse à une population qui n'est pas en fait scientifique comme tu l'es, justement pour que les gens comprennent bien en fait tous ces enjeux.
Alors, les écosystèmes menacés sont essentiellement les écosystèmes côtiers, puisqu'ils subissent double peine, on va dire, entre le changement climatique, donc qui modifie les paramètres physico-chimiques de l'eau de mer, mais aussi la pollution qui arrive par les bassins versants. Et dans les écosystèmes côtiers, ceux dont on parle le plus souvent, ce sont les récifs coralliens qui subissent de grosses canicules marines. Comme il existe des canicules sur Terre, aujourd'hui il y a de nombreuses canicules marines qui sont des bulles d'eau qui restent sur ces éco des bulles d'eau chaude qui restent plusieurs jours sur ces écosystèmes. Et si je peux me permettre d'expliquer un petit peu ce qui arrive à ces récifs coralliens, les récifs coralliens, ce sont des colonies d'animaux qui restent fixés, donc ils ne peuvent pas s'échapper, et qui abritent dans leur tissu des petites algues symbiotiques, qu'on appelle des zooxanthelles, et qui leur donnent leur belle couleur. Et ces coraux ont besoin, c'est des coraux qu'on trouve essentiellement dans les tropiques, ces coraux, pardon, ont besoin de ces petites algues pour survivre parce que ça leur apporte une grande quantité d'énergie, bien qu'ils puissent aussi se nourrir par eux-mêmes. Et en fait, quand l'eau est trop chaude pendant trop longtemps, ben les algues, elles ne sont pas bien, donc elles s'en vont, elles sont expulsées. Et c'est à ce moment-là qu'on voit le squelette du corail qui est blanc, et c'est ce qu'on appelle le blanchissement des récifs coralliens. Et je pense que tout le monde en a entendu parler parce que chaque été, on parle des pourcentages de blanchissement corallien à travers le monde, et notamment sur la Grande Barrière de Corail en Australie.
oui, c'est tout à fait correct ce que tu dis et tu fais bien de le rappeler parce que je pense que on ne parle pas assez justement de ce phénomène-là et justement donc les écosystèmes dont tu parlais donc c'est plutôt en fait dans la partie australe mais en fait tout le monde est concerné donc les régions côtières donc c'est vraiment un engagement de tous, on est tous finalement concernés par cet océan qui est aussi notre maison et justement on parle de réchauffement, tu en parlais en début d'émission, le réchauffement climatique, donc il affecte les océans et leur biodiversité, ça c'est clair donc maintenant. Mais comment il l'affecte? Ça l'étouffe en fait en quelque sorte.
Alors, y a, alors je peux revenir aussi sur les écosystèmes parce que j'ai cité les récifs coralliens, mais il y a aussi les mangroves qui sont aussi dans les zones tropicales, mais il y a tous les écosystèmes côtiers de nos propres littoraux. Il faut comprendre que ces écosystèmes côtiers, quand ils sont en bonne santé, que ce soit des herbiers sous-marins, que ce soit des forêts d'algues, en fait, ils protègent nos côtes d'événements extrêmes, de l'énergie des vagues. Et en fait, c'est très, très important que ces écosystèmes restent en bonne santé. Et pour revenir à ce que je disais, indépendamment du changement climatique, ils subissent aussi les problèmes de pollution qui viennent des bassins versants.
Oui.
Et pour revenir à la biodiversité en tant que biodiversité, donc c'est-à-dire plutôt les animaux, les espèces, eux, en fait, bon, ils souffrent de plusieurs choses. Ils souffrent souvent de la surexploitation, hein, de la pêche. On pêche trop, trop loin, trop longtemps, trop profond, et pourtant on n'arrive plus à capturer assez de poissons puisqu'on ne leur laisse pas le temps de se reproduire, mais on a aussi les poissons qui migrent en fait, qui se déplacent avec le réchauffement climatique. et donc quitte les eaux chaudes pour aller vers des eaux plus tempérées, plus froides. Et finalement, aujourd'hui, c'est les poissons tropicaux qui se déplacent vers le nord. Et en fait, des études scientifiques ont montré qu'ils faisaient 60 km par décennie. C'est-à-dire que les populations de poissons se déplacent d'environ 6 km par an.
Alors, ce que tu nous expliques finalement aussi peut-être explique le fait qu'on a quelques baleines qui viennent s'échouer de temps à autre sur nos côtes, ce qui n'est pas quelque chose de normal en fait. On l'a vu en Espagne et ça nous a assez choqué en fait, ça a choqué la population.
Alors, pour les mammifères marins, j'avoue honnêtement que ce n'est pas forcément ma spécialité, mais les échouages peuvent être dus aussi à des problèmes de pollution sonore. Alors, ils peuvent, alors je le redis, hein, ce n'est pas ma spécialité, mais ils peuvent effectivement peut-être subir des modifications de perception de leur environnement à cause d'eau plus chaude. Mais les baleines sont habituées à migrer, puisque en fait, elles se nourrissent dans les eaux froides et viennent mettre bas dans les eaux chaudes. Donc, elles sont quand même, c'est des animaux qui sont habitués à traverser sur de longues distances l'océan et d'aller dans des endroits qui sont plus ou moins chauds. Mais aujourd'hui, les mammifères marins s'échouent souvent pour des problèmes de
Orientation.
localisation.
Voilà. Ils se sont, sont désorientés en quelque sorte, non?
Voilà, désorientés par le bruit sous-marin, la pollution sonore, le transport maritime, des essais en mer de bombes ou de recherches sismologiques, de choses qui envoient du son dans l'océan.
Bien sûr, ce sont des vibrations et ces vibrations sont finalement néfastes pour tous ces mammifères justement dont ils se guident justement par ces vibrations sonores. Donc, c'est vrai que c'est quand même un équilibre qui est fragile et fort à la fois. Et c'est vrai qu'on se rend compte à quel point l'être humain a un impact qui peut être néfaste. Mais en même temps, j'ai envie de donner un petit peu d'espoir aussi à toutes les personnes qui nous écoutent. Et justement, il y a certainement, et j'aimerais savoir quelles sont les actions les plus efficaces pour protéger les océans, puisque finalement, la science évolue aussi. Et il y a certainement donc des actions justement qu'on mène en ce moment.
Alors, il faut savoir que l'océan peut être très très résilient, c'est-à-dire que si on le protège de produits toxiques, d'espèces invasives, si on le laisse vivre sa vie, la vie va revenir très très rapidement. Aujourd'hui, dans les solutions, en fait, la première, c'est quand même de décarboner nos activités parce que ces gaz à effet de serre qui ont été absorbés par l'océan, à un moment donné, il ne pourra plus les absorber. Donc, ils resteront dans l'atmosphère. Et c'est à ce moment-là qu'on va souffrir un petit peu encore plus, on va dire, de la chaleur ou des modifications de climat, d'événements extrêmes qui peuvent être aussi de plus en plus violents, des incendies, des typhons. Enfin, on le vit déjà un petit peu aujourd'hui. Et puis, mais enfin, moi, ce qui me porte, puisque dans les questions que j'ai pu lire, c'est qu'est-ce qui me porte aujourd'hui positivement et avec optimisme, c'est des rencontres avec des gens qui, des jeunes générations, qui ont conscience, qui veulent agir, qui modifient leur mode de vie, qui font des expéditions à moindre impact pour aller rencontrer des populations locales pour voir comment chacun vit ces modifications climatiques, comment certains ont déjà trouvé des solutions pour finalement s'adapter à ces changements, sachant qu'effectivement, il y aura beaucoup, beaucoup de problèmes à venir avec la montée des eaux, puisque beaucoup de monde habite sur le littoral et que ça, c'est plus des politiques, on va dire, qui sont engagées pour faire des adaptations des structures urbaines, en fait, par rapport à cette montée des eaux. Beaucoup de maires réfléchissent déjà à comment délocaliser une partie de leurs habitations, de leurs structures.
Ouais. Mais disons que ça révolutionne de toute façon toutes nos habitudes. On est, de toute façon, si notre espèce veut survivre et toutes les espèces sur Terre, on est obligé de s'adapter. Comme tu dis très justement, bon, ce qui est intéressant et ce qui est aussi encourageant, c'est de voir qu'il y a cette jeune génération quand même qui est alerte et qui a envie justement de réagir Malheureusement, on subit parfois les aléas de nos politiques, hein, de nos politiciens. On ne va pas les nommer puisqu'on n'est pas là pour faire de la politique, mais quand bien même, c'est vrai que c'est bien de sensibiliser la jeune génération. Et justement, dans les, est-ce que toi, tu as eu contact avec comment dirais-je, des techniciens, parce qu'il y a des progrès qui ont été faits justement pour préserver les océans, mais il y a est-ce qu'il y a des nouvelles techniques? J'ai vu qu'il y avait comme des, je ne veux pas dire des paquebots parce que ce n'est pas le mot juste, mais qui absorbe cette pollution. J'ai vu ça quelque part sur le net. Il y a des avancées technologiques avec des appareils qui permettent justement de désintoxiquer d'une certaine manière les océans. Est-ce que tu as connaissance?
Alors, effectivement, il y a beaucoup, par secteur d'activité, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à comment modifier leurs activités. Le transport maritime réfléchit à décarboner, donc à utiliser moins de carburant. Pour cela, ils ont plusieurs idées. Il y en a qui réutilisent des kites, hein, comme du temps de la marine à voile, pour aider à limiter la consommation de carburant, même sur les porte-containers. On voit ça aujourd'hui. Il y en a qui réinstaurent le transport slow, enfin lent à la voile, pour les cargaisons qui ne méritent pas d'arriver en 24 heures chrono dans un port. Il y a aussi tout un travail autour des hélices et de la propulsion pour que celles-ci fassent moins de bruit, pour que celles-ci soient moins impactantes sur la biodiversité. Il y a beaucoup de choses aussi sur les nouveaux carburants pour limiter les émissions dans l'atmosphère du transport maritime. Donc, beaucoup de choses par secteur. Alors, ça, c'est pour le transport maritime. Il y a beaucoup de choses qui se font aussi dans la construction navale, dans la plaisance, avec l'utilisation de nouveaux produits, d'éviter les produits toxiques que l'on met sur les bateaux, qu'on appelle l'anti-fouling, pour éviter que les salissures se collent. Chaque secteur d'activité essaye de trouver des solutions. Aujourd'hui, il y a aussi pas mal de choses autour des algues, d'utiliser les algues pour les emballages, les algues pour la santé, pour l'alimentation, mais aussi pour créer des emballages biodégradables pour limiter la pollution plastique. On n'en a pas parlé, mais tu l'as un peu
C'est vrai, je l'ai mis
cité
en
avec le.
filigrane, donc je t'invite justement à parler
Voilà.
de le faire.
La pollution
Parler
plastique est un désastre, en fait, mais c'est parce que c'est la pollution qui se voit. Mais il y a tellement d'autres pollutions qu'on ne voit pas. Donc, c'est vrai qu'elle est souvent citée. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle est même traitée sur la scène internationale, où il y a en cours de discussion un traité contraignant pour limiter la pollution plastique dans les océans. Mais il ne faut pas se leurrer. Limiter la pollution plastique, c'est limiter aussi la production de plastique. Le plastique est fait avec du pétrole. Donc, on rentre aussi dans des dimensions économiques et de lobbying assez compliquées. Mais aujourd'hui, voilà, 175 pays, je crois, sont en train de discuter depuis 2 ans pour un traité contraignant, limitant la pollution plastique dans les océans. Mais il faut savoir que cette pollution qui arrive dans les océans, elle arrive mais elle est faite à terre, et que, en fait, il faut aussi, chacun a un rôle à jouer pour que ce plastique n'arrive pas dans l'océan, et a un rôle à jouer aussi pour limiter la consommation du plastique dont on ne sait pas se débarrasser correctement. Le plastique ne revient pas à la terre naturellement.
Donc, le plastique, en effet, est très néfaste. Et tu parlais des algues. Et je voulais simplement faire peut-être aussi une petite parenthèse. On utilise aussi les algues dans les biofaçades. J'ai vu qu'il y a une entreprise d'architectes, notamment, je crois, à Paris, qui fait donc des nouvelles structures, des nouveaux concepts de maisons, justement, en régulant tout ce qui est justement les températures externes et internes pour éviter justement d'utiliser le traditionnel chauffage ou air conditionné, en utilisant les algues qui vont réguler en fait justement les températures. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais c'est intéressant de voir qu'à travers la mer, il y a tellement de solutions. Finalement, ce n'est pas un ennemi, ou bien au contraire, c'est un ami. Et il faudrait justement s'intéresser à tous les bienfaits et tout ce qu'on peut extraire de l'océan, mais tout en respectant, on va dire, son équilibre. Je crois que c'est ça avant tout, c'est
Oui,
respect d'équilibre, non, Corinne?
je peux rajouter, en fait, que l'océan est vivant, qu'il nous inspire, qu'il aura plein de choses pour nous inspirer, pour faire face à ces enjeux, justement, de changement climatique et aux enjeux de pollution. Et qu'aujourd'hui, par exemple, quand les chercheurs ont étudié la peau de requin, un animal hyper hydrodynamique, ils ont découvert qu'ils ont réussi à créer une peinture posée sur des bateaux ou des avions, limite la consommation d'énergie parce qu'ils les rendent plus hydrodynamiques. Beaucoup de molécules de médicaments ont été trouvées grâce à des animaux de la mer. Des processus comme le processus de l'allergie a été trouvé grâce à un siphonophore, une espèce d'animal gélatineux qui vit au large des Açores. Donc, on a beaucoup à apprendre du milieu marin et c'est aussi pour ça qu'il faut le conserver qu'il faut le conserver en bonne santé parce qu'il ne faut pas faire disparaître des espèces qui pourraient nous être utiles par la suite. Quelques anti-cancéreux et médicaments pour lutter contre le sida sont issus d'animaux, d'invertébrés marins.
C'est incroyable et c'est tellement intéressant ce que tu nous expliques. Et justement, je fais une petite halte parce que je crois que tu développes aussi des projets, notamment à l'écriture. Tu parlais des requins et ça me fait penser que tu as participé au programme Requin, qui est un ouvrage requin au-delà du malentendu. Donc, c'est ce que tu as expliqué un petit peu en filigrane aussi. Non, tu as participé à différents ouvrages expliquant justement les bienfaits. Il y a eu aussi les tortues marines, je crois. Il y a eu plusieurs ouvrages, non?
Oui, ce sont les ouvrages de l'Institut océanographique de Monaco pour lequel j'ai travaillé et qui en fait traitent les thématiques des écosystèmes marins ou des espèces marines à travers des programmes transversaux où on va parler de l'histoire des écosystèmes ou des espèces, de leur découverte, de ce qu'ils apportent, de comment ils sont menacés et comment finalement. Il est intéressant de les garder en bonne santé pour l'avenir de l'humanité. Donc, il y en a eu une petite dizaine, effectivement, d'ouvrages.
En fait, on pourrait parler des heures avec toi parce que c'est vrai que c'est un sujet tellement vaste comme l'est l'océan. Et moi, j'aimerais maintenant que les personnes qui nous écoutent, et je sais que le temps file, mais si on devait donner un message, tu devrais adresser un message aux générations futures et qui pourraient peut-être te rejoindre. En fait, quel est le conseil que tu donnes? Comment peut-on être actif aujourd'hui en tant que simple citoyen, pour le dire comme ça? Quel est le message que tu aimerais adresser aux générations futures pour peut-être participer de manière un peu plus active à ce mouvement finalement?
Je pense qu'il faut comprendre que la nature, qu'on est vivant, qu'on fait partie de la nature, qu'on en a besoin, que l'océan fait partie de la est un ami, que s'il n'était pas là, on ne serait pas en vie. La vie est venue aussi des océans, que notre corps est fait d'eau, enfin de sang. Dont la salinité, la composition est proche de l'eau de mer, qu'on a besoin, qu'on ne vivra pas de.
Bien sûr, on dépend directement de l'océan et c'est
Voilà, et du vivant
voilà, et
surtout.
du
Et je
vivant.
pense qu'aujourd'hui, on est trop déconnecté du monde vivant.
C'est vrai parce que tu dis souvent, tu es là pour faire aimer, connaître et protéger l'océan et je trouve cette phrase très belle et très poétique, mais c'est vrai que c'est pour ça que tu t'engages aussi et tu es membre de Vista, je crois que c'est l'association des femmes du maritime, c'est juste?
Oui, alors la petite phrase que tu as dite avant, c'est celle du commandant Cousteau, je crois, qui a été
D'accord.
reprise par de nombreuses personnes. Et on ne protège que ce que l'on aime et on aime que ce que l'on connaît. Voilà, c'était ça l'idée. Alors,
C'est bien de prendre
les.
comme ce thème et de rappeler, absolument. Et Vista, alors est-ce que tu aimerais nous dire peut-être, puisqu'on est encore
Alors.
à l'antenne, sur Vista?
Alors, comme je suis la première invitée féminine, oui, je peux peut-être en dire un mot. L'idée du réseau des femmes du maritime, c'est un réseau international hein, qui existe dans de nombreux pays et qui a été initié par des femmes qui étaient dans le shipping et aujourd'hui qui s'est beaucoup élargi à d'autres secteurs d'activité en lien avec la mer. Et l'idée, c'est plutôt de donner une égalité, en fait, on va dire, de visibilité sur les compétences et les capacités des femmes dans un milieu qui reste encore un petit peu prégnant, enfin, où
Masculin.
il y a de nombreux hommes. Voilà. Et donc, c'est un réseau qui permet finalement un partage d'expériences, du mentorat, de mieux se connaître, mais aussi d'apprendre à se valoriser à travers des séances de coaching.
C'est très bien, parce que finalement, ça permet de réunir toutes ces femmes qui sont pétries de talent et je pense issues de différents univers. Genre, quand je dis univers, différents endroits du globe, non? Ou c'est une association qui est française?
Non, non, c'est international et donc moi je suis évidemment dans le réseau français, mais il existe aussi en Espagne. Mais par exemple, en France, on a mis en place un annuaire de femmes pour faire monter les femmes aussi dans les conseils d'administration et les conseils de gestion. C'est pas que les femmes ne sont pas dans le maritime, c'est qu'elles n'accèdent pas forcément à des postes de haut niveau ou à des postes de décision ou de gouvernance. Voilà.
Alors j'espère justement que cette vision des femmes et notamment ta vision aura donné envie aux gens de s'intéresser davantage aux océans, qui est un enjeu qui nous concerne tous puisque notre vie dépend des océans. Et j'invite aussi tous nos auditeurs non seulement à suivre peut-être aussi tes engagements, je mettrai donc quelques références dans le podcast pour que tu aies justement un retour, et peut-être aussi de rappeler qu'il y a cette conférence mondiale de l'ONU justement pour la défense des océans qui aura lieu en juin et où tu seras présente et où il y aura de nombreux pays, justement les pays qui seront présents pour présenter voilà, quelques programmes et quelques avancées. Voilà, Corinne, alors j'ai envie de te souhaiter bon vent, c'est ce qu'on dirait, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à une scientifique comme toi? Quelle est l'expression?
Merci, merci. On peut me souhaiter, oui, bonne continuation. Merci, Susanna. Je suis plus médiatrice scientifique que scientifique. Hein. Je n'ai vraiment pas fait de recherche telle que le font les scientifiques, mais c'est vrai que c'est un travail passionnant, rempli de rencontres enthousiasmantes. Et en tout cas, c'est ce qui permet aujourd'hui, on va dire, de chaque jour trouver un intérêt à travailler.
Et oui, de se lever tous les jours. Mais écoute, en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir expliqué justement à nos auditeurs tous ces enjeux qui sont très importants, de nous avoir éclairé un petit peu avec ta boussole. Et on te souhaite alors un plein succès. Et on se dit à très vite. On va rendre l'antenne dans quelques instants. Reste peut-être encore en ligne et je te reprends un tout petit peu plus tard. Merci. Merci à tous. C'était
Merci,
Studio
au
F.
revoir à tous.
Au revoir à tous. Merci.
Alors voilà, nous étions avec Corinne Bussy, justement, qui est océanographe et conseillère scientifique. Donc j'ai eu le bonheur de la voir en ligne il y a quelques jours. Donc cette interview a été enregistrée et notamment, justement, nous avons pu aborder avec elle des thématiques, enfin une thématique très intéressante qui était l'état des océans, les progrès et les enjeux autour de justement ces océans et notamment aussi de rappeler que la troisième conférence de l'ONU sur les océans aura lieu à Nice cette année qui a été décrétée par la France, année de la mer. Alors voilà, moi je vous propose peut-être maintenant de poursuivre ce voyage à l'antenne, mais cette fois-ci en musique avec France Gall. Je vous emmène. Voilà, nous allons écouter France Gall tout de suite. Studio F, Susanna Ikebana jusqu'à 17h.
Toi qui me parles pour que j'aie moins froid, je te donne tout ce que j'ai à moi, la clé d'un monde qui n'existe pas. Viens, je t'emmène où les étoiles trouvent la lune en secret. Viens, je t'emmène où le soleil le soir va se reposer. J'ai tellement rêvé que j'y suis arrivée.
donc avec France Gall qui nous emmenait aussi vers la barrière de corail. Rappelons justement que le début d'émission a été consacré à l'interview à Corinne Coppin, justement, Corinne Bussy-Coppin, océanographe et conseillère scientifique. Une interview qui a été enregistrée et que vous pouvez retrouver sous la forme de podcast. Je remercie encore tous nos auditeurs d'ici et d'ailleurs. Et nous poursuivons ce voyage musical cet après-midi jusqu'à 17h. Susanna Ikebana pour vous accompagner. Et je vous propose un tout petit peu de douceur et un peu de jazzy quelque part. C'est si bon. Et oui, tout de suite, c'est parti.
C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. Ouh, c'est si bon de se dire des mots doux, de petits rien de tout, mais qui en disent long en voyant mine ravie les passants dans la rue nous envient. Oh, c'est si bon de guetter dans ses yeux un espoir merveilleux qui donne le frisson. Petite sensation, ça vaut mieux qu'un million. C'est tellement, tellement bon.
De prendre une tasse de thé ou une tasse de chocolat chaud et d'être ensemble jusqu'à 17h pour la suite du programme musical. Je rappelle que nous étions en compagnie de Corinne Coppin en début d'émission pour une interview qui a été enregistrée justement. Et tout de suite, nous poursuivons le voyage musical avec 1, 2, 3, ça swing.
Surprise quand j'étais qu'un gamin. Regardais tomber mes nuits et j'en attendais rien.
Moi, à Springfield, Massachusetts, la vie coulait comme de l'eau. Un matin, j'ai pris perpète en ouvrant la radio.
Ça s'appelait rock and roll.
Moi, ça me rendait fort.
Moi j'y ai rien compris, sauf que c'était ma vie. Tu comprends rien mais que ça sonne.
Ouh, ouh, ouh.
Ça faisait 1, 2, 3, plus tu m'aimes. 4, 5, 6,
Une page endiablée, c'était du rock and roll avec Jean-Jacques Goldman, vous l'aurez reconnu, Carole Fredericks et Michael Jones. Et nous poursuivons toujours le voyage musical. Vous êtes en ma compagnie, Susanna Ikebana, jusqu'à 17h. Et maintenant, un petit peu de douceur. Nous partons avec Florent Pagny, Un jour, une femme. Studio F.
Passer les nuits blanches à rêver ce que les contes de fées vous laissent imaginer. D'avoir perdu son enfance dans la rue, des illusions déçues, passer inaperçues. D'être tombé plus bas que la poussière, et à la terre entière, en vouloir puis se taire. D'avoir laissé jusqu'à sa dignité, sans plus rien demander, qu'on vienne vous achever. Et un jour une femme, le regard vous frôle, vous porte sur ses épaules comme elle porte le monde, et jusqu'à bout de force recouvre de son écorce vos plaies les plus profondes. Puis un jour une femme met sa main dans la vôtre, pour vous parler d'un autre, parce qu'elle porte le monde jusqu'au bout d'elle-même. Vous prouve qu'elle vous aime par l'amour qu'elle inonde. Sa patience vous remet debout. Trouver en soi un avenir peut-être, et surtout l'envie d'être ce qu'elle attend de vous. Et un jour une femme dont le regard vous pose vous porte sur ses épaules, comme elle porte le monde, et jusqu'à bout de force recouvre de son écorce pour plaies les plus profondes, pour plaies les plus profondes. Et un jour cette femme met sa main dans la vôtre pour vous parler d'un autre, parce qu'elle porte le monde. Et jusqu'au bout d'elle-même, vous prouve qu'elle vous aime par l'amour qu'elle inonde, par l'amour qu'elle inonde. Et un jour cette femme dont le regard vous touche porte jusqu'à sa bouche le front d'un petit monde. Et jusqu'au bout de soi lui donne tout ce qu'elle a, chaque pas, chaque seconde, et jusqu'au bout du monde, et jusqu'au bout du monde.
Voilà, nous quittons Florent Pagny avec cette magnifique chanson tout à fait romantique. Je remercie encore tous les auditeurs de nous accompagner et de m'accompagner tous les mercredis, que ce soit en streaming ou en direct, ou à travers aussi le podcast. Comme vous savez, vous pouvez retrouver ces émissions qui sont enregistrées et que vous pouvez retrouver sur Spotify Studio F. Nous poursuivons le voyage musical puisque nous sommes ensemble jusqu'à 17h et je vous propose un petit peu de jazz manouche avec Thomas Dutronc.
Un coup dans l'aile, le vent est doux, la lune fidèle, un chant de cigare, je me sens zigane. Le cœur léger, je vois passer une fleur d'été, hello jolie, je suis pas d'ici, je suis musicien. Un soir je suis le roi, un soir le chien, qu'on caresse ou qu'on laisse en solo. C'est vrai, des fois je ne suis pas un cadeau, une caresse, glace, un seau d'eau, un air de fête, une tempête de liberté, un mojito. Je vais me coucher tard, deux mojitos. Je vais me coucher tôt.
Et oui, Thomas Dutronc avec ce jazz manouche qui met de l'ambiance dans le studio. Et nous partons avec une chanson d'un autre registre avec Lara Fabian, La Différence.
La différence, celle qui dérange, une préférence, un état d'âme, une circonstance, un corps à corps, en désaccord avec les gens trop bien pensants, les mœurs d'abord. Leur peau ne s'éteindra jamais d'une différence. Elle se ressent, se touche comme ces deux hommes qui dansent. Sans jamais parler, sans jamais crier, ils s'aiment en silence. Sans jamais mentir, ni se retourner.
Voilà pour Lara Fabian, magnifique chanson, très beau texte également. Et je vois que le temps passe, il est déjà 16h58. Oui, le temps qui passe avec Laura Fidji. Alors, je la laisse un petit peu en arrière-plan, puisque je dois vous informer que cette émission donc comportait une interview en début, justement, début de programmation, et que la semaine prochaine, il s'agira de ma dernière émission Studio F pour cette saison. Je vous rassure, j'espère vous retrouver très vite en deuxième partie de l'année. Donc, nous avons été ensemble durant trois mois, tous les mercredis. Je tiens à remercier d'une part toute l'équipe de Radio Marbella, mais nous sommes encore là la semaine prochaine, évidemment. Mais je voulais ne pas manquer de remercier toutes les personnes qui m'ont accompagnée dans cette aventure, tous les auditeurs qui m'écoutent d'ici et d'ailleurs. C'est toujours un bonheur d'être en votre compagnie, mais j'ai des obligations artistiques qui me freinent un petit peu et qui ne me permettront pas de poursuivre cette émission encore plusieurs semaines. Donc je terminerai justement ce trimestre avec la dernière émission de Studio F, avec probablement une interview. Je vous laisse justement avec cette information. Ne manquez pas justement de retrouver toutes les émissions de toute manière à travers le podcast justement de Spotify Studio F. Donc vous pouvez retrouver l'ensemble de la programmation. Alors voilà. Donc on entend au fond justement la musique, le générique de fin, parce que je vais justement rendre l'antenne. Il est 17h. J'espère que vous avez apprécié cette heure en ma compagnie, cette programmation, interview et également variété musicale. Je vous souhaite une excellente semaine. Bonne fête des pères en Espagne, puisque c'est le 19 mars. Je vous souhaite une très belle continuation. Soyez prudents. Profitez de la vie, écoutez de la musique, soyez heureux et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, arrivederci, hasta luego.